Nous avons rencontré Sarah Moon Howe. Sarah s'est fait connaître dès son premier documentaire. Et pour cause, elle nous plongeait dans le monde sulfureux du striptease. Ne dites pas à ma mère est ce premier film qui défraya les chroniques. Suivra un film sur le coup de tonnerre qu'elle subit en apprenant que son nouveau-né souffre de troubles neurologiques. Elle vient de terminer une co-réalisation avec et sur Boris Lehmann et déjà elle poursuit plusieurs projets, dont un voyage en tandem avec son fils Jack jusqu'à Paris. Une aventure rocambolesque, drôle et surprenante, comme elle.
Le cinéma de femmes, c'est pas aussi simple que ça.
Les femmes réalisatrices et les films de femmes, ça délie la parole.
Nous étions à 23% de femmes.
Quoi qu'on fasse, ça a quand même une portée politique.
Ça, c'est du cinéma.
C'est vraiment une détestation du corps des femmes qui est organisée. Je trouve ça...
On est la deuxième moitié de l'humanité. Notre regard manque dans le monde.
En 84, mon grand-père a réalisé avec Gerald Friedman un film qui s'appelle Le Cheval de Fer, qui retrace les débuts du cinéma. Et quand il a été appelé par Cannes pour dire « Vous êtes en lice pour la Palme d'Or », il a reçu un coup de fil chez lui et ma grand-mère lui a dit « Mais tu crois à ça ? Toi, on t'appelle, on te dit que Cannes t'appelle et tu y vas, mais il n'est pas question que tu y ailles. Ce soir, le dîner est prêt, demain, on va chez nos amis, machin et machin. » Et non, tu restes ici, tu ne vas pas aller à Cannes. Toi, on t'appelle comme ça et tu y vas. Et donc, mon grand-père n'est pas allé chercher sa palme d'or. Et c'est Gerald Friedman qui est allé seul. J'adore cette histoire parce que toute ta vie, tu fais des films pour essayer. Et puis, tu as une femme qui ne comprend pas trop ton métier et qui dit « Mais attends, qu'est-ce que tu vas faire là-bas à Cannes ? Reste ici. » Ma mère, Françoise Levy, était script et monteuse et elle est toujours réalisatrice de documentaires. Mon père, Jim Howe, était chef électro pour un chef opérateur qui s'appelle William Lubchansky qui travaillait beaucoup avec des réalisateurs de la Nouvelle Vague. Donc il était aussi très souvent absent, mon père. Et en fait, je me suis posé la question de qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour une enfant unique de naître dans une famille de gens qui font du cinéma. Ça veut dire que le cinéma... Et tous les mots liés au cinéma sont brandis à tour de bras comme des excuses pour bosser beaucoup et s'occuper peu de l'enfant que j'étais. Donc, être enfant de cinéma, c'est faire l'expérience d'être très souvent très seule. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour me sortir de cette solitude ? Je suis allée au cinéma et je suis allée voir « Mauvais sang » de Carax. Et cette première séance... J'ai eu l'impression que ce film me parlait exactement à moi, comme si le réalisateur me disait à l'oreille « Je te comprends, petite Sarah, tu vois, avec le cinéma, on peut tout faire. » Donc après cette première séance, j'étais très souvent au cinéma. Mais ce qui est très étrange, c'est que je ne reliais pas mon expérience de spectatrice au métier de mes parents. Pour moi, c'était deux choses différentes. Mais c'est après que je me suis rendu compte, par exemple, que mon père faisait la lumière sur des films qui m'intéressaient. Mais comme mon père ne s'intéressait pas trop, en fait, il rentrait, il disait « Qu'est-ce que ça m'emmerde ?» et « Godard » et « Moki ». Et donc, moi, ça ne m'a pas donné envie d'aller... Enfin, ça m'a... j'ai pas relié les deux expériences, mais après, je me suis dit « Mais en fait, ils sont magnifiques, ces films. Pourquoi mes parents sont passés à côté de ces films ?» Donc, je faisais mon expérience de cinéma seule et un peu en secret, d'ailleurs. Et comme si j'étais la seule à découvrir ce qui s'y jouait. À l'âge de 18 ans, je suis partie avec mon petit ami de l'époque, en Sibérie. Lui, il sortait de l'INSAS. On a été envoyé par ma mère qui faisait un film sur des fouilles archéologiques. Donc on attendait, on filmait un peu les squelettes, les petites recherches. Et un jour, un mec est arrivé en camion, une espèce de gros camion 4x4, en nous disant qu'à 2 heures de notre camp, il y avait un autre camp où ils avaient trouvé une momie et qu'il fallait absolument venir filmer cette momie. Et donc on arrive sur le camp... On est en train de choisir le meilleur axe de prise de vue. Un hélicoptère arrive. Là, on sort des Américains, une équipe de National Geographic qui arrive et qui nous dit « Partez de notre champ de prise de vue ». Ça faisait des mois qu'on attendait cette découverte, mais eux, ils avaient été prévenus que c'était la découverte. Et c'est vrai que les archéologues ont tellement aimé cette momie, donc ils ont enlevé toute la glace, le permafrost, ils ont trouvé cette femme qui avait 19 ans, apparemment quand elle est décédée, donc elle datait de 3000 ans avant Jésus-Christ. Et donc quand ils ont trouvé cette momie, ils ont décidé de l'emmener à Moscou. Puis nous, on est rentrés en Belgique, le film s'est fait. Et en 2014, je suis partie à Kiev pour présenter un de mes films. Et là, je rencontre un mec qui me dit qu'il est sibérien. Évidemment, trop contente de me raconter mon histoire de Sibérie. Je raconte que moi, j'étais en Sibérie, que j'ai filmé une momie. Il me dit « Quoi ? C'est incroyable !» Les gens de cette région en veulent énormément, en fait, aux archéologues d'avoir déraciné la déesse de la région, de l'avoir emmenée à Moscou. Et ils se battent depuis des années pour la ramener dans la région de l'Altaï. Et finalement, ils vont y arriver. Et donc, les gens vont faire en sorte que la momie soit rapatriée à Novosibirsk, au musée de la région. En fait, je trouve ça très intéressant parce que faire un film sur quelqu'un ou sur une situation, ça change ce quelqu'un ou cette situation. Et je l'ai appris très tôt avec cette histoire-là. Parce qu'en fait, cette momie qu'ils ont transportée jusqu'à Moscou, enfin, je pense qu'ils l'auraient quand même transportée, même si personne n'avait filmé cette momie. Mais l'hélicoptère est tombé. Donc le mec est mort. Ils ont récupéré quand même le frigo. Ils ont récupéré la momie. Et donc, en fait, c'est vrai. Il y a quelque chose, en fait, filmer les choses, les fouiller, ou ça change quelque chose. Ça imprime une espèce de vague qui fait que les choses ne seront plus pareilles. Et donc, pour moi, ce n'est pas du tout un choix de pouvoir. D'un côté, c'est bien de montrer les choses, de filmer les choses, mais d'un autre côté, je crois qu'on casse un mystère, peut-être. J'ai l'impression que la caméra retire le fonctionnement naturel des choses. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je crois que j'ai fait beaucoup de films qui parlent de mon expérience personnelle, parce qu'au moins, évidemment, je faisais de mal à personne. Après l'école secondaire, l'expérience sibérienne, j'ai 19 ans et je m'inscris à l'école de psychologie parce que moi, je décide de ne pas être cinéaste. Après l'enfance que j'ai vécue, qui était quand même heureuse, mais où je n'ai pas vu beaucoup mes parents, je décide que moi, je serai une bonne petite mémère, que le soir à 18h, je m'occuperai de mes enfants. Et donc, je fais ces études que j'ai beaucoup aimées, mais je n'ai quand même pas trouvé très rock'n'roll. Et donc après, je décide quand même, je ne sais pas très bien pourquoi, de m'inscrire à l'INSAS. Et je suis admise à l'INSAS. Et très vite, je sens que je ne suis pas à ma place. D'abord, j'ai l'impression que ce n'est pas moi qui vais à l'INSAS, mais mes parents. Que c'est comme si c'était eux qui me télécommandaient et que comme un zombie, j'obéissais à un désir qui n'était pas le mien. Et puis, autre chose me déplaît à l'INSAS, j'ai l'impression que je ne suis pas dans la vraie vie. En fait, j'ai l'impression que je suis loin de l'ouvrière, le mineur, la caissière. Et je me dis qu'à 20 ans, je n'ai pas connu grand-chose à part les momies sibériennes. Et que, en fait, moi, la vraie vie, je ne la connais pas. Et donc, je prends une décision brutale et radicale. Je quitte l'INSAS pour devenir stripteaseuse. Et là, je n'ai pas été déçue. Je deviens donc une espèce d'ouvrière de la nuit avec ses codes et ses règles strictes. Mais évidemment, en devenant stripteaseuse, j'avais quand même vu avant Vivre sa vie de Godard, mais aussi des films comme La fille seule de Jaco, ou à l'époque Exotica de Atome Goyan, ou un film que j'avais adoré, Sioux Lost in Manhattan d'Amos Kolek. Donc tout à coup, je me dis, mais je suis dans le film, je suis dans un vrai film, je suis dans la vraie vie. Et mes copines de danse formidables, toutes droit sorties de tous ces films, c'est des héroïnes, quoi. Ces nanas avec leur accent, leur gouaille, qui s'en foutent complètement de ce qu'on pense d'elles. Donc je me dis, mais quelle liberté d'être dans le monde plutôt que de vouloir le filmer ou le commenter. Mais quand même, je me suis dit, ben ces filles, elles sont géniales, il faut que je les filme. J'ai commencé à filmer ces femmes qui, ensemble, traversaient la forêt, comme pour se demander un petit peu qui elles étaient. Parce que c'est quand même une question aussi qui était très présente dans les clubs de striptease. C'est qui je suis, qu'est-ce que c'est être une vraie femme, qu'est-ce que c'est de grandir. Et à l'époque, la seule caméra que je possédais, c'était une caméra Super 8 que j'avais reçue d'un copain. Et donc je suis partie travailler avec cette caméra Super 8 qui a été aussi un filtre entre le monde du striptease et moi. Ça faisait un peu écran et ça me permettait de me protéger un petit peu. C'est ce premier film, Ne dites pas à ma mère, qui parle de mon expérience de striptease où en fait je filme mes copines en Super 8 et puis je rencontre un gars qui est là et qui est caméraman. qui normalement filme le foot pour Canal+, et qui traîne dans les bars à striptease et qui m'aide à me filmer et à filmer les filles, qui était un très bon caméraman d'ailleurs, parce qu'il avait l'habitude de filmer les corps en mouvement, et donc il arrivait vraiment à choper des focales et des points de vue très intéressants par rapport aux danseuses. Donc j'ai remis un projet à la commission que j'ai écrit, j'ai obtenu l'aide, j'ai fait le film, et puis un jour j'ai reçu un coup de téléphone comme quoi le film était choisi à la 60e Mostra de Venise. J'y suis allée avec mon père, ma mère et mon grand-père. Mais comme tout ça était un peu touchy, parce que c'était quand même un film sur mon expérience de stripteaseuse, on y est allé en disant qu'on avait un film là-bas, mais sans trop parler du sujet. Ils voyaient bien que ça parlait de moi dans le film, mais j'ai pas osé. Enfin, c'est bête, mais on n'a pas bien célébré à cause un peu de la honte du sujet, je crois. Donc après, ne dites pas ma mère, je pensais que j'allais pas refaire de film, et puis la vie en a décidé autrement. Il s'est passé un événement plus romanesque que les cinémas, ou je dirais même trop réel pour être cru, en tout cas par moi. C'était l'annonce du handicap de mon nouveau-né, et ça a été si brutal que j'ai eu envie de faire rewind. Mais dans la vraie vie, on peut pas faire rewind. Alors j'ai fait un film qui m'a permis de remâcher ce qu'on m'a fait avaler pour le digérer.
Vous êtes arrivée avec un enfant qui était âgé de 2 semaines aux urgences pour des mouvements qui n'étaient pas normaux ou en tout cas qui étaient fortement suspects pour vous. Vous vous êtes dit, c'est pas banal ce qu'il fait, c'est pas normal, il y a quelque chose, c'est de l'épilepsie, il faut faire une évaluation complémentaire, ça impose un traitement et d'ailleurs on l'a hospitalisé le jour même.
Faire un film sur cet événement, revenir sur ce qui s'était passé, ma grossesse, l'accouchement, l'annonce du handicap, tout ça m'a obligée à conceptualiser, à reconstituer, à découper, à monter la réalité, et je l'ai fait dans l'enthousiasme d'une seconde naissance quelque part. Ce qui est génial, c'est qu'en fait, ça te permet de faire sens, de que tout ça soit et servi à quelque chose, et que tu ne fasses pas que subir les événements. Pour faire mes films, je suis prête à beaucoup de choses. Et c'est souvent une gymnastique quand même, parce que comme je suis maman solo 1 semaine sur 2, je dois jongler avec les films et mon enfant. Alors, il fréquente une école spécialisée qui s'arrête à 16h. Donc, ça veut dire qu'à 16h, tout s'arrête. Fini les tournages, fini le montage, fini les réunions. C'est conjuguer une vie de mère, d'un enfant extraordinaire, à celle de réalisatrice. Et dans mon cas, les urgences liées à mon enfant, qui sont souvent médicales, prennent souvent le dessus sur le boulot. Parce que ce sont des vraies urgences, comme une crise d'épilepsie, je ne peux pas me dérober. Un médicament en rupture de stock, je ne peux pas me dérober. Un rendez-vous concernant l'avenir de mon fils, je ne peux pas me dérober. Comme je ne peux pas me dérober non plus à sa façon de fonctionner, à ses forces, à ses faiblesses. Et donc tout ça impose une gestion marathonienne du quotidien. Quand je me décourage, en fait, je pense au public, au retour, quand on me dit c'était bien, je me suis reconnue, merci. Il y a souvent des gens qui viennent me voir après les séances et qui me prennent dans leurs bras ou qui ont des larmes aux yeux. Et je me dis, mais c'est pour eux que je fais ces films. Mais je crois que c'est aussi pour nous, évidemment, qu'on fait ces films. En tout cas, moi, je fais des films pour régler mes comptes avec moi-même. J'ai l'impression que le film que je préfère, c'est toujours celui que je suis en train de faire, ou celui qui n'est pas encore sorti, parce que tu te dis, tu l'idéalises encore complètement. C'est peut-être celui-là qu'on préfère. Mais le film que je préfère, quand même, un des films que je préfère, c'est le film sur André. Ce film que j'ai fait en 2 temps, où j'ai d'abord été filmée en Ukraine, un jeune activiste pour les droits des personnes handicapées en Ukraine, et qui, parce que je le filmais, s'est raccroché à ma caméra pour se sauver de son pays d'origine, enflant Amnesty International, Human Rights Watch et le gouvernement français. Et ce n'est que quand j'ai appris sa mort que j'ai repris le film, abandonné quelques années plus tôt. Et en menant l'enquête, j'ai compris pourquoi André avait menti.
Le côté acteur, je l'ai senti une fois. Je l'ai senti une fois quand on l'a interviewé et qu'il nous a raconté son parcours. On ne l'interrogeait pas sur ça pour savoir les détails, mais à un moment donné, il nous a parlé des multiples agressions qu'il avait subi, et notamment quand il s'était rendu au commissariat et qu'il avait été tabassé. Et en fait, j'ai senti que là, il était acteur. C'est-à-dire qu'il a pris une serviette comme s'il allait pleurer. Et il n'a pas pleuré. Et en fait, ce que j'ai senti, c'est qu'il était en train de nous donner ce que probablement on attendait, et je sentais qu'il surjouait l'émotion.
C'est un film que j'aime beaucoup, même s'il est très douloureux, parce que mon personnage est quand même mort et qu'il s'est suicidé. Mais dans ce film, c'est ça que j'aime, c'est que ça interroge un peu la manipulation, le rapport filmeur-filmé et les difficultés de faire un film. Parce qu'en fait, je supporte plus trop les documentaires qui essayent d'éluder cette question. Non, non, tout s'est bien passé, tout va bien avec mon personnage, où il n'y a pas de problème. Mais c'est pas du tout vrai. Faire un film, c'est quelque chose où quelqu'un, ben, ça change ce quelqu'un. Il y a quelque chose qui se transforme. C'est très intéressant, tout en racontant l'histoire, de parler du processus que tu es en train de se faire, du film que tu es en train de se faire. Évidemment, en se mettant un peu sur le grill, parce que c'est comique quand un réalisateur se moque un peu de lui-même et des images qu'il prend. Mais la rencontre et le fait que parce que j'ai commencé à le filmer, il a cru qu'il allait pouvoir sortir de l'Ukraine, qu'il a dit que parce que je l'avais filmé, il a eu des intimidations. Et donc, comme je me suis sentie tellement coupable et que j'ai eu tellement peur pour lui, que j'ai fait tout un ramdam, même jusqu'à Amnesty International, et qu'on l'a exfiltré d'Ukraine. Et qu'après, on s'est rendu compte que tout ça avait été des mensonges. Donc, c'est vraiment comment la caméra change la donne, quoi. Et aussi, comment aller jusqu'au bout du processus, parce que j'aurais pu me dire, ah, oh, bah, écoute, tant pis, écoute, bah oui, il a eu des intimidations, mais bon, c'est... Pourquoi moi, j'ai décidé à nouveau de sauver ce gars ? Voilà, que j'ai pas réussi complètement à sauver, puisqu'il s'est quand même suicidé en France quelques années plus tard. J'ai deux projets que je fais en même temps. Un film sur un éducateur spécialisé en autisme et en troubles du comportement qui intervient dans les familles, qui intervient au domicile des parents qui n'ont plus aucune solution. C'est un gars qui montre vraiment la défaillance du système, parce qu'en fait, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas assez d'écoles pour les enfants avec autisme, il n'y a pas assez de centres de jour ou d'hébergement, et donc les familles sont seules à gérer cette situation. Et Lucas, il y va dans les familles avec un courage et une espèce de... Il est mu par une conscience politique, puisqu'il doit être, à mon avis, profondément anarchiste. Il ne croit pas au système et donc il décide d'aider les familles. Il y va, il aide, il essaie de trouver des solutions qui mettent en lumière quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre système. Et l'autre film que je fais, et pour lequel on a reçu l'aide à l'écriture, c'est un film que je co-réalise avec Jack, avec mon fils. Le film s'appelle Fiction, au pluriel. C'est un film documentaire qui montre quelles sont les fictions de Jack, ce qui l'agite, les histoires. Et qui montre aussi qu'est-ce que c'est ce qu'il y a dans la tête de Jack, comment il séquence le monde, parce que c'est quand même quelqu'un qui vit au milieu des personnages imaginaires et qui vit dans un conte. Pour lui, il voit le monde comme vraiment à la fois un conte de fées et un film d'horreur. Donc voilà, on a décidé de faire ce film-là. On concrétise ce qui l'agite. Et c'est très intéressant parce que évidemment, ça nous oblige à imaginer des costumes qu'on fabrique nous-mêmes et puis on le filme dans ces costumes, il me filme. Et donc ça, c'est très, très chouette. C'est très chouette à faire, surtout que c'est greffé à cette idée de film un voyage à Paris qu'il voudrait faire en tandem avec moi. Et ça aussi, ce voyage à Paris en tandem, avant de le faire concrètement, parce qu'on va le faire, on l'a imaginé en animation. Et donc, on travaille avec Grafouille. On fait un atelier avec Grafouille où on peut imaginer ce que ça va être, ce voyage à Paris. Et à nouveau, là, on a accès aux histoires de Jack qui s'imagine à l'endormir sur la route, chez les uns et les autres. Qu'est-ce que cette petite mémère nous ferait à manger dans telle maison? Et si on passe par là, comment on nous accueillera? C'est intéressant. C'est vraiment une fabrication artisanale, mais joyeuse. Pour Jack, chaque jour de la semaine est une couleur et une fête. Donc tous les lundis c'est Halloween, tous les mardis c'est carnaval, tous les mercredis c'est la fête des fleurs, le jeudi c'est la fête des rois, le vendredi c'est Pâques, le samedi c'est Nicolas et le dimanche Noël. Donc ça fait plusieurs années qu'il vit selon ses fêtes. Et moi, j'en avais marre de ces fêtes parce qu'il passait son temps à faire des calendriers, à me montrer tel jour, etc. Et je me suis dit, mais il tourne en boucle avec ses fêtes, avec ses rituels. Il faut sortir de là. Donc, on a décidé de faire des mises en scène où il est Saint-Nicolas, où il est Père Noël, où il parle à la petite souris, et c'est génial, ça marche très très bien, parce qu'à partir du moment en fait où on a tout mis en scène, les délires se sont un peu atténués, quoi. Sortir ce qui nous agite pour que ce soit à l'extérieur de nous, qu'on puisse le regarder et se dire « mais c'est chouette ce que j'ai fait » et être fier de soi. Parce que Jack, quand il regarde les rushs, il est fier de lui, quoi. J'aimerais beaucoup un jour réaliser un film de fiction, ça c'est un grand rêve, c'est vrai que j'aimerais faire un film de fiction. Pour pouvoir avoir une vraie liberté de parler des choses avec un... Ne pas essayer de tronquer la réalité, mais pouvoir l'inventer complètement. Ce qui m'intéresse, c'est quand même des gens qui se battent avec leur sensibilité, avec leur démons, enfin... Comme dans tous les bons films, mais avec leur solitude, avec leur faiblesse, avec le fait qu'ils ont l'impression qu'on ne les comprend pas, avec leur tiraillement interne, leur peur d'être un salaud aussi. Je trouve ça intéressant, cette espèce de tiraillement que moi j'ai rencontré beaucoup parmi les parents d'enfants extraordinaires, c'est à la fois cette envie, ce besoin de porter comme ça son enfant et d'être là pour tout, et puis de se dire mais qu'est-ce que j'en ai marre ? Comment on fait, en fait, quand on est comme ça coupé en deux par, je dirais pas des injonctions paradoxales, mais ce truc qui à la fois, c'est vrai que c'est un marathon, hein, c'est cette vie qu'on doit vivre, cette vie où on devra s'occuper toute notre vie de quelqu'un qui aura besoin de nous. Comment faire ? Alors à la fois, on se dit, ben, je vais le faire, je vais endosser cette responsabilité et je vais faire en sorte d'avoir une belle vie, de rester libre malgré cette réalité. Et puis parfois, les jours où c'est plus compliqué, tu te dis « mais qu'est-ce que j'en ai marre ?» et « qu'est-ce que je m'en fous en fait ?» et « je veux pas faire ça ». Je trouve ça intéressant. J'avais beaucoup aimé un livre qui s'appelait « Tenir jusqu'au lendemain ». C'est l'histoire d'une maman qui est seule avec sa fille et qui sent que son monde se referme un petit peu. Et donc elle décide le soir quand elle dort d'aller faire un petit tour du bloc. Et puis chaque fois, elle va plus loin, plus loin. Je trouve que nos envies de liberté, elles pourraient nous jouer des mauvais tours, mais en même temps, heureusement qu'on pense encore à s'échapper ou à se libérer et à faire du quotidien buissonnier.
Vous venez d'écouter Les Glaneuses, le podcast qui s'immisce au creux de la vie de réalisatrice. Ce podcast est une production de Synergie et de la Cinémathèque de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous pouvez retrouver les épisodes sur synergie.be et sur vos applications de podcast.